Chapitre 35. Le faucon. Beaucoup plus rapide que Perrine, l'âne s'était déjà engagé dans l'escalier alors que le jeune homme s'efforçait toujours de fendre la foule qui avait pris d'assaut la salle commune de l'auberge. Voyant que le champion s'efforçait de ne pas paraître pressé, le jeune homme l'imita. Dans son dos, il entendit des remarques peu amènes sur les gens qui poussaient les autres sans se gêner.
« Encore une fois !»
s'écria Orban, tout en tendant son gobelet d'argent à la serveuse.
Si vous y tenez, les aïeuls nous avaient tendu une embuscade sur la route, plus près de Rémen que je l'aurais cru possible. Sans crier gare, ils nous fondirent dessus, leur lance foudroyant tout de suite deux de mes meilleurs hommes et un des plus vaillants combattants de Gan. Sachant reconnaître des aïeuls lorsque j'en vois...
Oui, depuis que tu en as pris deux par surprise,
pensa Perrine tout en fonçant vers l'escalier. Entendant des éclats de voix derrière la porte de Moiraine, il passa son chemin, car il n'avait aucune intention de subir un sermon d'Aes Sedai. En revanche, il frappa à la porte de Loyal, puis passa sa tête à l'intérieur de la chambre. Le lit Ogier était énorme. Alors que Loyal bénéficiait d'une très belle chambre, lui, ce meuble occupait presque toute la place. Se souvenant vaguement que c'était du bois chanté, Perrine regretta de n'avoir pas le temps de contempler ce qui tenait plus d'une œuvre d'art que d'un élément de mobilier. En regardant un peu vite, on aurait juré que ce lit avait poussé à l'endroit où il se dressait. Un ogier avait vraiment dû séjourner à Rémen dans un lointain passé, car l'aubergiste avait également déniché un fauteuil à la taille de Loyal, même une fois garni de coussins. En bras de chemise, et sans avoir retiré son pantalon, l'ogier trônait sur ce magnifique siège. Se grattant une cheville avec un orteil, il écrivait dans un grand livre relié de tissu posé sur un bras du fauteuil.
« On s'en va !»
lança Perrine. Loyal sursauta, manquant renverser son encrier.
« Pardon, mais on vient juste d'arriver. »«
Pourtant, on lève le camp. Rejoins-nous aux écuries aussi vite que possible. Et ne te fais pas remarquer, surtout. Prends l'escalier de service au fond du couloir, celui qui passe sûrement devant les cuisines. »
À cet endroit, l'odeur de nourriture était trop forte pour qu'il en soit autrement. L'ogier jeta un coup d'œil mélancolique au lit, puis il commença à enfiler ses bottes.
« Pourquoi ce départ ?»«
Les capes blanches. Je t'expliquerai plus tard. »
Le jeune homme repartit avant que l'ogier ait pu le bombarder de questions. N'ayant pas défait ses bagages, il eut besoin d'une minute pour tout récupérer. Une fois que ce fut fait, il ne resta plus trace de son passage dans la chambre. Même pas un pli sur le couvre-lit ou une projection d'eau dans le coin réservé aux ablutions. La bougie elle-même était neuve, comme au moment de son arrivée.
À croire que je savais que le séjour serait bref. Ces derniers temps, je ne sème pas beaucoup d'indices derrière moi.
Comme il l'avait supposé, l'escalier de service passait bien devant les cuisines. Y jetant un coup d'œil, Perrine vit un chien tournebroche occupé à trotter dans sa roue d'osier, entraînant une énorme broche où rôtissait un quartier d'agneau, un énorme morceau de bœuf, cinq poulets et une noix entière. Une fumée à la senteur délicieuse montait du chaudron installé dans la cheminée secondaire. Mais il n'y avait en vue ni cuisinière ni marmiton. Bref, pas une créature vivante à part le chien. Pour une fois, le succès des racontars d'Orban avait du bon. Bâti avec la même variété de pierres que l'auberge, mais la façade seule était polie, une différence notable, les écuries, très spacieuses, restaient très chichement éclairées pendant la plus grande partie de la nuit. Trotteurs et les autres montures attendaient dans des stalles près des grandes portes. Lorsqu'il entra, Perrine trouva réconfortante l'odeur de la paille et du fumier. L'unique palefrenier présent, un type au visage étroit vêtu d'une chemise crasseuse, demanda de quel droit Perrine pouvait exiger quatre chevaux sellés à cette heure. Il voulut aussi savoir qui était son maître et à quoi rimait un départ alors qu'il faisait encore nuit. Au fait, maître Furlan était-il au courant? Et qui avait-il dans sa sacoche de sel? Bien entendu, l'agaçant personnage voulut aussi savoir ce qui était arrivé aux yeux de Perrine. Avait-il contracté une maladie contagieuse? Une pièce vola dans les airs, passant au-dessus de Perrine avant que le palefrenier, vif comme l'éclair, l'intercepte au passage.
« Selle les chevaux !»
dit simplement l'âne. Sa voix suffit à convaincre le palefrenier de se mettre fissa à l'ouvrage. Moiraine et Loyal entrèrent juste à temps pour réceptionner les rênes de leur monture. Tout le monde suivant l'âne, la petite colonne de fugitifs remonta une rue qui courait derrière les écuries et rejoignait la rivière. Le bruit des sabots sur les pavés attira seulement l'attention d'un chien famélique qui aboya une fois, sembla trouver bizarre le son de sa propre voix et s'enfuit sans demander son reste.
« Ça rappelle de sacrés souvenirs, pas vrai, Perrine ?»
lança Loyal à mi-voix. Hélas, quand il s'agissait de lui, ça suffisait largement pour réveiller les morts.
« Ne crie pas comme ça ! Quel souvenir ?»«
Eh bien, c'est comme dans le bon vieux temps. »
Modulant son ton, Laugier faisait à présent autant de bruit qu'un bourdon de la taille d'un chien et non d'un cheval.
« Filer en pleine nuit avec des ennemis à nos trousses, et peut-être d'autres qui nous attendent. Le parfum enivrant du danger et de l'aventure. »
Perrine foudroya Loyal du regard par-dessus la selle de trotteur. Un exploit assez facile à réaliser quand on faisait la taille de l'apprenti forgeron et qu'on avait affaire à un géant comme Laugier.
« De quoi parles-tu ? On dirait que tu aimes le danger à présent. Loyal, tu es sûr de ne pas perdre la tête ?
Non, je précise simplement les choses pour bien les fixer dans mon esprit. »
Le ton de Laugier parut peu naturel à Perrine, ou peut-être un peu trop défensif.
« C'est pour mon livre, celui que j'écris. Il faut que tout soit dedans. Mais tu as raison, je commence à y prendre goût. À l'aventure, pas au danger. Mais au fond, c'est normal. Un auteur doit être attaché à son sujet, non ?»
Perrine se contenta de hocher la tête. Sur les quais, les bacs étaient amarrés pour la nuit, comme les autres navires. À l'exception notable d'un deux-mâts autour duquel des gens allaient et venaient, lanterne à la main. Plissant les yeux, Perrine vit qu'il y avait aussi du mouvement sur le pont. Ici, l'air sentait le goudron et le chanvre, avec de forts relents de poissons. D'un entrepôt très proche montait également une odeur épicée que les autres occultaient presque. L'âne repéra très vite le capitaine, un petit homme mince, qui inclinait la tête d'une étrange façon en écoutant ses interlocuteurs. Les négociations n'ayant pas traîné, les chevaux furent montés à bord dans des harnais spéciaux, hissés par d'énormes potences de levage. Perrine ne quitta pas les bêtes des yeux et leur parla pour les apaiser. Très conservateurs de nature, les équidés détestaient la nouveauté, en particulier quand elle consistait à voler dans les airs. Mais là, même le fier étalon du champion parut calmé par les murmures de l'apprenti forgeron. L'âne donna des pièces d'or au capitaine et paya deux marins pour qu'ils aillent chercher des sacs d'avoine dans un entrepôt. Pendant ce temps, d'autres marins installèrent les montures entre les deux mâts, dans une sorte d'enclos délimité par des cordes. En travaillant, ces hommes pestèrent d'abondance contre le fumier qu'ils devraient nettoyer une fois le voyage terminé. Ces protestations n'étaient pas destinées à être entendues, mais avec son ouïe hors du commun, Perrine n'en rata pas une miette. À l'évidence, les matelots n'étaient tout simplement pas habitués aux chevaux. En un clin d'œil, l'oie des neiges fut prête à appareiller. Avec à peine quelques minutes de retard sur le programme que son capitaine, nommé James Adara, avait déterminé. Tandis que les marins larguaient les amarres, l'âne accompagna Moiraine jusqu'à sa cabine, et Loyal suivit le mouvement en bâillant. Bien que voir Laugier lui eût donné sommeil, Perrine choisit de rester accoudée au bastingage, à la proue du navire. Là, il se demanda si l'oie des neiges pouvait distancer des loups, ou battre de vitesse des rêves. Alors que les marins s'emparaient des rames, afin d'éloigner le navire du quai, à l'instant même où un docker réceptionnait au vol la dernière amarre, une femme en jupe culotte déboula sur le quai, un paquet dans les bras et une longue cape noire battant dans son dos. Juste avant que l'abîme séparant le quai du navire soit devenu infranchissable, l'inconnue sauta souplement sur le pont. Debout près du timonier, Adara sursauta, mais la jeune fille, c'en était bien une tout compte fait, posa tranquillement son paquet et déclara.
Je paierai mon passage et j'irai aussi loin qu'il ira.
Elle désigna Perrine sans même daigner le regarder.
Je ne vois aucune objection à dormir sur le pont, parce que le froid et l'humidité ne me dérangent pas.
Après quelques minutes d'âpre marchandage, l'inconnu remit trois couronnes d'argent au capitaine, fit la moue en comptant la monnaie qu'il lui rendit, mais l'accepta quand même et vint se camper à côté de Perrine. Le jeune homme trouva qu'elle sentait le propre et la fraîcheur, quelque chose qui le faisait penser à une bonne infusion à base de plantes. Ses yeux noirs se posaient souvent sur lui, se rivant sur la berge dès qu'il faisait mine de tourner la tête. Environ de son âge, cette fille avait un drôle de nez, dont on avait du mal à dire s'il convenait à son visage ou s'il le dominait d'une manière inesthétique.
« Perrine Aybara, tu es un crétin. Qui se soucie de son aspect ?
Le bateau était déjà assez loin du quai, et sous l'action régulière des rames, l'abîme s'élargissait de plus en plus. Un moment, Perrine envisagea de jeter l'intruse par-dessus bord.
« Eh bien, »
dit-elle, comme si de rien n'était.
« Je ne m'attendais pas à repartir si vite pour Liliane. »
La voix haut perchée, l'inconnu parlait d'un ton à rien autoritaire, mais pas déplaisant pour autant.
« Tu vas bien en Liliane, non ?»
Perrine fit la moue.
« Allons, ne boude pas, veux-tu ? Avec ton ami Aiel, vous avez fait un sacré carnage sur la place. Quand je suis parti, le remue-ménage commençait à peine.
« Tu ne m'as pas dénoncé ?»
Les gens pensaient que Lagel avait coupé la chaîne avec ses dents, ou qu'il avait brisé à main nue, c'est selon. Quand je me suis éclipsé, il n'avait pas encore tranché. En tout cas, Orban se lamentait haut et fort parce que sa blessure l'empêchait de poursuivre le fugitif.
« S'il revoit un jour un Aiel, il se fera dessus. Désolé. »«
Je ne crois pas qu'il souillerait son pantalon. »
dit la jeune fille, comme si la remarque de Perrine n'avait rien eu d'inconvenant.
Cet hiver, j'ai croisé son chemin à Jeanna. Il a affronté 4 hommes, en tuant 2 et forçant les 2 autres à implorer sa pitié. Bien sûr, il avait commencé. Et ce n'est pas digne d'un vrai héros. Mais les 4 types n'étaient pas manchots. Orban n'est pas du genre à défier des adversaires qui ne savent pas se défendre. Cela dit, c'est un crétin. Il a cette obsession ridicule pour la grande forêt noire. Tu en as entendu parler ? Certains l'appellent la forêt des ombres.
Perrine coula un regard en biais à l'inconnu. Elle parlait de bagarre et de tuerie sur le ton qu'une autre femme aurait employé pour échanger des recettes de cuisine avec une amie. Si la grande forêt noire était inconnue au bataillon pour Perrine, la forêt des ombres s'étendait au sud de 2 rivières.
« Tu me suis, c'est ça ? Tu me regardais à l'auberge. Pourquoi ? Et pour quelle raison ne m'as-tu pas dénoncé ?»«
Un ogier, »
souffla la jeune fille, les yeux baissés sur l'eau.
Ça, c'était facile à voir. Et les autres ne m'ont pas posé beaucoup de problèmes non plus. J'ai mieux réussi qu'Orban à jeter un coup d'œil dans les ombres de la capuche de Dame Alice. Et dès qu'on voit ses traits, on sait que le guerrier au visage de pierre est un champion. Pas la lumière. Il faudrait me payer cher pour que je marche sur les pieds de ce gaillard. Il a toujours cette air-là, ou c'est à cause du rocher qu'il a dévoré au petit déjeuner ? Ça me laissait toi comme énigme. Je n'aime pas les mystères non résolus.
Perrine songea de nouveau à jeter par-dessus bord l'agaçante passagère. Sérieusement, cette fois. Mais Rémen n'était plus qu'un minuscule point lumineux derrière eux, et elle risquait de ne jamais atteindre la rive. La jeune fille sembla prendre le silence de Perrine pour une invitation à pérorer de plus belle.
« Donc, me voilà avec... »
Elle baissa la voix, même si le marin le plus proche était à 10 pas au moins.
« Récapitulons. Une Aes Sedai, un champion, un ogier... Et toi ? Un pecno au premier coup d'œil. »
Elle inclina la tête, sondant le regard jaune de Perrine.
« Sauf que tu as libéré un Aiel, parlé un long moment avec lui, puis consacré toute ton énergie à l'aider à hacher menu une bande de capes blanches. Une activité qui semble être coutumière, parce que tu n'avais pas l'air plus bouleversé que ça en débitant des fils de la lumière en rondelles. Pour résumer, quand je croise un groupe de voyageurs comme vous, je flaire une piste plus qu'étrange. Et c'est exactement ce que cherche une quêteuse digne de ce nom.
Une quêteuse ? Toi ? Une si jeune fille ? Je n'y crois pas.
L'inconnu eut un sourire si innocent que Perrine s'écarta d'elle à tout hasard. Dessinant des arabesques dans l'air, l'étrange passagère clandestine fit apparaître un couteau dans chacune de ses mains. Un tour comme Tom Marilyn les aimait, et presque aussi bien exécuté que par ses soins. Un des rameurs, effrayé, poussa un petit cri, et 2 autres trébuchèrent. Alors que leurs rames s'en mêlaient, Loi des Neiges fit un écart et tanga. Pas longtemps, car les hurlements du capitaine furent prompts à faire rentrer les choses dans l'ordre. La fille aux cheveux noirs profita de la diversion pour rengainer ses couteaux.
« Des doigts et un esprit agile mènent une femme bien plus loin qu'une épée et des muscles. Un bon coup d'œil ne fait pas de mal non plus. » Par bonheur, j'ai été plutôt gâté sur tous ces plans.
Sans parler de la modestie,
grommela Perrine. Hélas, l'inconnu parut ne pas avoir entendu.
Pour en revenir à la quête, j'ai prêté serment et reçu ma bénédiction sur la grande place de Tamaz en Liliane. J'étais la plus jeune, paraît-il. Mais dans une foule pareille, avec le boucan des tambours, des flûtes et des braillards de tout poil, nous étions bien plus que 1000. Peut-être le double, carrément. et chacun d'entre nous pensait savoir où trouver le corps de Valère. Qui est peut-être la bonne, mais aucun quêteur ne peut s'offrir le luxe de dédaigner une piste intrigante. Le corps se trouve sûrement au bout d'un chemin de ce type, et je n'ai jamais vu un quatuor plus étrange que le vôtre. Pour qui œuvrez-vous ? Liliane ? Un autre pays ?
Quelle est ton idée ?
Éluda Perrine.
Au sujet de la localisation du corps.
D'après ce que je sais, il est en sécurité à Tarvalon, et j'espère bien ne plus le revoir de ma vie.
Tu crois qu'il est au Géaldan ?
La passagère presque clandestine plissa le front. Quand elle avait levé un lièvre, il n'était pas aisé de le lui faire oublier. Mais Perrine était prêt à lui offrir autant de fausses pistes qu'elle voudrait bien en prendre.
« Tu as déjà entendu parler de Manéthéren ?»
demanda soudain la jeune fille. Perrine faillit en avaler de travers.
« Oui, vaguement. »«
Toutes les reines de Manéthéren étaient des Aes Sedai. Le roi étant tout simplement leur champion. J'ai du mal à imaginer un royaume pareil, mais c'est ce que disent les livres. C'était un très grand pays, plus vaste qu'Andorre et le Géaldan réunis. Mais la capitale, baptisée du même nom, se trouvait dans les montagnes de la brume. Selon moi, c'est là que cachait le corps. Sauf si vous me conduisez à lui. Dans ce cas, je reconnaîtrai mon erreur. »
La moutarde commença à monter au nez de Perrine. Cette fille lui donnait un cours comme s'il était un idiot du village.
« Tu ne trouveras pas le corps là-bas, ni Manéthéren, parce que cette ville fut détruite pendant la guerre des Trollocs. Au moment où la dernière reine puisa trop de pouvoir afin de tuer les seigneurs de la terreur responsables de la mort de son mari. »
Moiraine avait mentionné le nom de ses souverains, mais il ne les avait pas mémorisés.
« Le corps n'est peut-être pas dans le royaume de Manéthéren, paysan, mais dans les montagnes de la brume, il existe des nations et des cités si anciennes que même les Aes Sedai les ont oubliées. Pense à toutes ces superstitions qui incitent les gens à ne pas entrer dans ces montagnes. Le corps de Valère ne serait-il pas à l'abri dans une cité oubliée ?»«
J'ai entendu parler d'un trésor caché dans les montagnes, »
mentit Perrine. La jeune fille allait-elle mordre à l'hameçon ? Pour raconter des sornettes, il n'avait jamais eu le talent de Matt.
« Les légendes ne précisent pas sa nature, »
continua le jeune homme.
« Mais comme il est question du trésor le plus précieux du monde, le corps de Valère semble un très bon candidat. Sais-tu que les montagnes de la brume s'étendent sur des dizaines de lieues ? Si tu perds ton temps à nous suivre, tu risques de rater une occasion en or de te couvrir de gloire. Alors, veux-tu qu'Orban et Gan te devancent, alors que tu es bien meilleur qu'eux ?»«
Je t'ai dit que ces deux-là ont des idées absurdes au sujet de la grande forêt noire. »
L'inconnu sourit. À ces instants-là, sa bouche ne paraissait plus trop large pour le reste de son visage.
« Et je te l'ai dit, une quêteuse ne doit jamais négliger une piste étrange. Tu as de la chance qu'Orban et Gan soient blessés, sinon nous les aurions peut-être sur les bras. Moi, je ne vais pas vous barrer le chemin, ni défier votre champion en duel. »
« Allons, nous sommes simplement des voyageurs en route pour Liliane. Comment t'appelles-tu ? Si nous devons cohabiter sur ce bateau, il faut bien que je te donne un nom. »
« Je me fais appeler Mandarbe. »
Perrine ne put s'empêcher d'éclater de rire. Outragée, la jeune fille le regarda comme si elle voulait le réduire en miettes.
« Je vais t'apprendre quelque chose, bouseux. Dans l'ancienne langue, ce mot signifiait lame. N'est-ce pas un surnom digne d'une quêteuse ?»
Reprenant plus ou moins son sérieux, Perrine désigna l'enclos improvisé entre les deux mâts.
« Tu vois cet étalon noir ? Eh bien, il se nomme Mandarbe. »
La colère de la jeune fille retomba et elle rosit vaguement.
« Oh ! Je m'appelle Zarine Bachéré, mais Zarine ne convient pas à une quêteuse. Dans les légendes, les quêteurs ont toujours des noms formidables, comme Rogoche à l'œil d'aigle. »
Voyant Zarine si dépitée, Perrine vola à son secours.
« Moi j'aime ton vrai prénom, parce qu'il te va très bien. »
La colère revint, et un moment, le jeune homme craignit de voir la quêteuse ressortir ses couteaux.
« Mais il se fait tard, Zarine. J'ai besoin de dormir. »
Perrine se détourna et se dirigea vers l'écoutille qui donnait accès aux cabines. Bizarrement, il eut comme des fourmis entre les omoplates. Des marins arpentaient toujours le pont, propulsant les lourdes rames.
« Allons, une fille comme elle ne te planterait pas un couteau dans le dos. Pas devant tant de témoins. Pas vrai ?»
Alors qu'il allait s'engager sur l'échelle, la quêteuse appela Perrine.
« Paysan ! Je peux aussi me faire appeler Fail. C'est le nom que me donnait mon père quand j'étais petite. Il veut dire faucon. »
Perrine faillit rater le premier échelon.
« C'est une coïncidence, »
Non sans effort, il parvint à ne pas se retourner.
« Il faut que ça en soit une. »
La coursive n'était pas éclairée, mais la lueur des rayons de lune suffit au jeune homme pour se repérer. Dans une des cabines, quelqu'un ronflait comme un sonneur.
« Mine, pourquoi faut-il que tu vois tes maudites images ? »